France Culture. Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il y a les châteaux heureux, les châteaux bénéfiques, blancs, clairs, signes de pureté, s'exprimant dans la partie la plus significative du bâtiment, la tour. Claude Métra, dans Les chemins de la connaissance au début des années 70, s'était intéressé aux tours, aux origines magiques, parfois, de la tour, au premier homme de la tour, celui qui interroge les astres. À la tour de Babel, bien sûr, à un poème de Zarathoustra, au bâtiment étrange, lieu à la fois de réflexion et de sommeil, que s'était fait construire Jung, aux veillées aussi dans la tour et aux veilleurs, et à la symbolique initiatique des sept marches. Les pierres, le feu, les plantes, les animaux, l'homme, les cieux étoilés et les anges. Les chemins de la connaissance, les châteaux et les songes, la tour, par Claude Métra, première diffusion sur France Culture le 10 novembre 1971.
Les habitants des châteaux heureux sont blancs, c'est-à-dire qu'ils sont vêtus d'un habit de lumière. Certes, il existe des châteaux maléfiques, des châteaux noirs, ceux qui sont privés de vie et qui ne sont plus que la demeure des fantômes. Il y a aussi ces châteaux qu'habitent seulement les prisonniers oubliés, ceux qui, indéfiniment, lèvent leurs yeux demi-aveugles sur la pauvre lumière du cachot. Mais ces châteaux noirs, on sait qu'ils sont dans les rêves signes de mauvais présages. Entre leurs murailles vivent des bêtes immondes ou fantastiques qui célèbrent dans le cœur de la nuit leurs noces démoniaques. Et c'est la raison pour laquelle, dans les anciens procès de sorcellerie, on voit si souvent les sabbats s'accomplir sur les ruines depuis longtemps désaffectées des anciens châteaux. C'est au milieu des pierres brisées, au-dessus des ossements des anciens occupants que fleurissent les herbes du diable. Mais cette blancheur qui caractérise les châteaux heureux, les châteaux bénéfiques, elle est signe de pureté, signe de virginité, et elle s'exprime dans la partie la plus significative du château, la tour. Et il est frappant de constater que la tour, qui est si importante dans tous les bâtiments médiévaux, eh bien, cette tour, elle disparaît précisément où le château devient une demeure purement profane, c'est-à-dire un lieu voué surtout à l'habitat, au plaisir, au confort, devient en somme une maison bourgeoise. Et si l'art classique ignore la tour, c'est que, en ce temps, le château n'est plus chargé d'exprimer que le pouvoir matériel, la puissance. Or, ce ne fut pas là l'origine de la tour. À première vue, évidemment, une tour, ce n'est jamais qu'un point d'observation, un sommet. La tour tient lieu de montagne et elle est vouée à l'exercice du regard. C'est là, évidemment, la perspective la plus quotidienne. De là, de cet observatoire privilégié, on peut dominer la vallée, on peut voir les ennemis arriver, on peut voir les brigands parcourir les chemins des campagnes. Mais ceci ne nous donne pas la clé de la véritable signification de la tour. Car ce qu'on pourrait dire déjà, et c'est un fait d'une extraordinaire banalité, c'est que dans des lieux déjà élevés, là où, par conséquent, le regard lui-même découvre suffisamment le paysage environnant, les constructeurs de châteaux n'ont pas hésité à construire des tours comme pour être plus haut dans le ciel. Alors, la réponse à cette présence de la tour, là où elle n'est pas absolument indispensable, doit être cherchée ailleurs, et il faut bien dire que la tour, à ses origines, est purement magique. Pour définir cette magie de la tour primordiale, il nous faut revenir un instant sur ces hommes du Moyen-Orient qui, les premiers peut-être, levèrent les yeux vers le ciel pour interroger les astres et pour découvrir dans les artifices célestes la connaissance du monde. Commençons d'abord par lire ici un poème très postérieur à ces premiers mages, puisqu'il s'agit d'un poème de Zarathoustra, le grand prophète de l'Iran, poème écrit aux alentours du 7e siècle avant notre ère, et dans lequel on trouvera quelques-uns des thèmes majeurs de cette interrogation céleste, mais des thèmes évidemment déjà très élaborés, à la limite de l'abstraction. Zarathoustra écrit: voici ce que je te demande, Seigneur. Réponds-moi bien. Qui a été à la naissance le père premier de la justice? Qui a assigné leur chemin au soleil et aux étoiles? Qui est celui, si ce n'est toi, par qui la lune croît et décroît? Voilà ce que je veux savoir, ô sage, et d'autres choses. Voici ce que je te demande, Seigneur, réponds-moi bien. Qui a fixé la terre en bas et le ciel dénué qu'il ne tombe? Qui a fixé les eaux et les plantes? Qui a attelé au vent et aux nuages les deux coursiers? Qui est, ô sage, le créateur de la bonne pensée? Voici ce que je te demande, Seigneur, réponds-moi bien. Quel artiste a fait la lumière et les ténèbres? Quel artiste le sommeil et la veille? Lequel a fait le matin, le midi et le soir pour indiquer à l'intelligence sa tâche? Dans ce poème de Zarathoustra, on trouve au fond tous les thèmes du guetteur, de l'observateur. Ce qui intéresse l'homme qui lève son regard vers le ciel, c'est le pourquoi de la course des astres. C'est pourquoi le jour et pourquoi la nuit, pourquoi la veille et pourquoi le sommeil. Et pourquoi aussi, dans cette profusion des bêtes et des arbres, l'homme a, lui, ce regard privilégié qui lui permet de comprendre. Ce poème de Zarathoustra, il est le terme de la longue quête menée depuis le fond des âges par les mages d'Orient. Il conduit évidemment à une vision très intériorisée de la vie divine. Mais en fait, c'est l'aboutissement du long travail qui avait été accompli depuis très longtemps, dans leur tour tressé vers le ciel par les sages de la Chaldée et de la Perse à la recherche des secrets du monde. Et nous voudrions ici, en compagnie de Kurt Seligman, étudier d'un peu plus près ce que furent ces premiers hommes de la tour, ces mages qui interrogèrent les astres pour connaître et le secret du monde et leur propre secret. Ce que voulaient savoir ces hommes privilégiés, ces mages, c'était ce que c'était que l'ordre du monde. Une minutieuse et incessante observation des corps célestes les conduisait à cette sagesse que nous appelons aujourd'hui l'astrologie. En leur éternelle révolution, les planètes, qui étaient des planètes dieux, jouaient une pantomime qui était l'expression même de la loi régissant l'univers. Ces mages qui observaient le ciel comprirent le sens de ce spectacle harmonieux. Ils purent prédire les configurations de la ronde grandiose et sur de quelle façon le mouvement céleste affectait les événements sur Terre. Et ce sont eux qui, les premiers, découvrirent que, dans la hiérarchie de l'univers, le supérieur gouverne l'inférieur. Les dieux étoiles étaient donc les maîtres de tout ce qui se trouve ici-bas. Dans ce jeu des corps célestes, parmi ces divinités, les sept planètes étaient les plus puissantes. On les appelait les dieux interprètes. Et Seligman ici nous donne un portrait intéressant de ce que c'était que la cosmologie de ces anciens Chaldéens. Pour eux, Jupiter Marduk était le créateur, celui qui ressuscitait les morts, le vainqueur du chaos. Sa brillante étoile était la torche royale du ciel. Quand il apparaissait dans l'aura de la lune, il accordait une progéniture mâle. Son influence était toujours favorable. Les présages de la lune, que les Chaldéens appelaient Sin, étaient ambigus en raison de ses phases irrégulières. La croissance végétale et animale était contrariée par sa diminution, stimulée par son expansion. Le soleil, dieu de la vie et de la lumière, était également instable puisqu'il produisait parfois la sécheresse et brûlait la semence. Mercure, le scribe et dieu de la sagesse qui écrivait les actes des hommes, n'était pas plus sûr. La connaissance peut en effet apporter le mal comme le bien. Saturne, dieu de la chasse, était propice aux affaires publiques aussi bien qu'à la vie de famille. Mais lui aussi semblait généralement exercer une mauvaise influence. On l'appelait le grand malheur. Mars était maléfique, dieu des morts et de pestilence, fauteur de guerre. Il annonçait la mort du roi, il détruisait les récoltes de froment et de dattes, empêchait la multiplication des troupeaux et des œufs de poissons. Il était appelé l'esprit malin, le perse, le renard. Quant à Vénus, ou Istar, déesse de la maternité et de l'amour, elle était bénéfique. Une grande puissance de guérison émanait d'elle et faisait croître les végétaux. Toutefois, elle était dangereuse pour les veuves et les nourrissons. Et ce qui est intéressant dans cette démarche des Chaldéens, de ces premiers mages déchiffreurs du ciel, c'est que pour mieux observer ce ciel, ils avaient construit des tours. Et ensuite, par une sorte d'inversion de l'intelligence, ils avaient construit des tours qui étaient comme la configuration de cet ordre du monde qu'ils avaient découvert. Ils voulaient que le bâtiment, bâti d'abord pour permettre simplement de mieux contempler les astres, fût désormais l'image de cette harmonie qu'ils avaient découvert dans l'univers. Et c'est l'origine de la tour de Babel. Car, en cherchant une expression plastique de leur cosmogonie, ils édifièrent peu à peu ce qu'on a appelé depuis la ziggourat, c'est-à-dire la tour du culte astral. Le ziggourat, c'était un monde en miniature, l'effigie de l'univers matériel. Et c'est ainsi qu'à Babylone fut édifiée la maison de la pierre fondamentale du ciel et de la terre, ce monument magique qui est connu dans la Bible sous le nom de Tour de Babel. Cette Tour de Babel avait 7 étages, et chacun de ces étages était dédié à une planète. Ses angles symbolisaient les 4 coins du monde. Et selon la tradition sumérienne, 4 était aussi le nombre des cieux, et le carré devint ainsi à Babylone la base du système cosmogonique. Les 7 degrés de la tour étaient peints de couleurs différentes qui correspondaient aux planètes. Le grand malheur, Saturne, était noir. Son étage se trouvait à la base de la tour, dont le sommet recouvert d'or était la résidence du dieu Soleil. Le second étage, à partir du haut, était blanc, la couleur de Jupiter. Le troisième, rouge brique, couleur de Mercure. Puis venait le bleu pour Vénus, le jaune pour Mars, le gris ou l'argent pour la Lune. Ces couleurs, ajoute Seligman, présageaient le bien ou le mal, ainsi que les planètes qui leur correspondaient. Ainsi s'explique l'étrange prédilection de l'influence néfaste exercée par un chien jaune qui franchirait la porte du palais. Le jaune était la couleur de Mars, dieu de la guerre et de la dévastation. Et alors cette symbolique, inventée par les Chaldéens pour représenter la tour de Babel, elle devait être ensuite reprise par les mages occidentaux au Moyen-Âge. Et c'est ainsi que dans une gravure sur bois qui illustre le livre de Raymond Lull de l'Ascension, on voit un savant théologien vêtu du manteau des docteurs, qui met le pied sur la première des 7 marches. Et en montant, il atteindra la connaissance de Dieu, dont le nom était écrit sur le huitième degré, le seuil de la demeure céleste. Selon cette image, les sept marches sont respectivement les pierres, le feu, les plantes, les animaux, l'homme, les cieux étoilés et les anges. Et c'est ainsi que, commençant par l'humble étude des pierres, l'homme de sagesse atteindra des degrés de connaissance de plus en plus élevés jusqu'à ce qu'il soit capable d'appréhender le sublime et l'éternel. Ainsi, ce qu'on peut dire, c'est que les tours sacrées du Moyen-Orient ancien, elles sont les symboles, la matérialisation de l'antique sagesse. Ces mages de l'ancienne Chaldée ont eu une postérité étrange puisque nous les retrouvons sous une forme bien différente, assurément beaucoup plus anecdotique. Dans la légende des rois mages, ces souverains venus d'Orient et d'Afrique pour saluer le Christ lors de son avènement. Mais ce qui est important dans cette aventure des rois mages venus se mêler aux bergers et aux femmes du peuple pour rendre hommage à la Vierge et à l'enfant Jésus, c'est que ils sont guidés par la découverte d'une étoile qui a été précisément aperçue par les mages surveillant le ciel du haut de leur tour. Voici par exemple ce que raconte une version très tardive, une version arménienne de ce voyage des mages, version qui montre bien qu'ils sont guidés dans ce voyage vers la Judée par la révélation d'une étoile, d'un signe céleste qui est aperçu par les mages. Et ce sont les mages qui préviennent les souverains que quelque chose est arrivé dans le monde. En fait, dans la légende évangélique, les mages et les rois sont confondus, comme s'ils portaient en eux à la fois le pouvoir et la connaissance. Alors, cette version arménienne de ce voyage des rois mages, elle nous décrit à peu près ce que représente pour l'époque précisément ce magisme oriental. Ces rois étaient trois frères. Le premier, Melchion, qui régnait sur les Perses, le second, Balthazar, qui régnait sur les Indiens, et le troisième, Gaspard, qui possédait le pays des Arabes. Cette nuit-là, un ange fut envoyé en Perse. Il apparut aux gens du pays sous la forme d'une étoile très brillante qui illumina toute la terre des Perses. Or, comme ce jour-là, il y avait grande fête chez tous les Perses adorateurs du feu et des étoiles, tous les mages en pompeux appareils célébraient magnifiquement leur solennité quand une vive lumière éclata sur leur tête. Ils virent qu'une étoile ardente s'était levée sur la Perse. Par son éclat, elle ressemblait à un grand soleil, et leurs rois dirent aux prêtres en leur langue « Quel est ce signe que nous voyons ?» Et comme par divination, ils dirent sans le vouloir « Le roi des rois est né, le dieu des dieux, la lumière émanée de la lumière. » Alors trois rois, fils des rois de la Perse, prirent comme par une disposition mystérieuse l'un trois livres de myrrhe, l'autre trois livres d'or, un autre enfin trois livres d'encens. Ils étaient parés de leurs ornements précieux, tiares en tête et leurs trésors dans les mains. Au chant du coq, ils quittèrent leur pays avant 9 heures et ils se mirent en route précédés par l'étoile qui leur était apparue. Et l'ange qui avait enlevé de Jérusalem le prophète Ababuc et avait apporté son repas au prophète Daniel dans la fosse au lion, ce même ange, par la vertu du Saint-Esprit, amena les rois de Perse en Jérusalem. Ce qui nous montre qu'à cette époque, les hommes de l'Orient étaient restés très attentifs à tous les signes qui pouvaient se manifester dans le ciel. Mais revenons à la tour de Babel. Construite à l'image des ziggourats de Mésopotamie, elle témoignait du désir des hommes de se rapprocher de la puissance divine, en montant en quelque sorte à l'assaut du ciel. Seulement, si l'on en croit la Bible, Dieu prit pour un orgueil insensé ce qui était peut-être en fait piété au cœur de l'homme. Et Dieu s'est ému de la grande connaissance des êtres et des choses à laquelle l'humanité semblait aspirer. Alors, il dispersa les bâtisseurs, mais les bâtisseurs s'en allèrent bâtir une autre tour de Babel un peu plus loin. C'est à ce moment-là, dit la Genèse, que Yahvé, Dieu, entra dans un grand courroux. Et au fond, c'était l'histoire du serpent qui recommençait. Yahvé était fâché de ce désir de connaissance absolue qui était au cœur de l'homme. Et alors, dit la Genèse, Yahvé s'exclama, Voici que tous font un seul peuple, parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises. Maintenant, aucun désir ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Et Yahvé les dispersa de toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Ainsi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Eh bien, cet anathème jeté sur les bâtisseurs de Tours ne devait pourtant pas empêcher les hommes de recommencer indéfiniment leur quête du ciel. On en trouve d'ailleurs à l'intérieur même du système du christianisme la preuve dans le grand effort qui fut fait par les bâtisseurs de cathédrales pour monter leurs flèches de plus en plus haut dans le ciel. Mais dans ce même christianisme médiéval, la tour devait prendre un symbolisme beaucoup plus précis. Elle n'était pas seulement une prouesse, la preuve que l'homme pouvait faire beaucoup sur cette terre, elle était également signe d'ascension spirituelle et de vigilance. Ce symbolisme de la tour comme instrument supérieur de connaissance, comme conquête d'un savoir caché, nous le retrouvons dans une aventure spirituelle tout à fait contemporaine, celle de Carl Gustav Jung. L'illustre médecin suisse s'était fait construire à côté de Zurich un bâtiment étrange qui était à la fois le lieu de sa méditation et le lieu de son sommeil, et où, semblable aux mages de l'ancienne Chaldée, il trouvait là la cohérence et la lumière du monde. Ce bâtiment, c'était une tour, et c'est de cette tour qu'il a parlé dans son livre « Ma vie ». Dès le début, la tour fut pour moi un lieu de maturation, un sein maternel ou une forme maternelle dans laquelle je pouvais être à nouveau comme je suis, comme j'étais et comme je serai. La tour me donnait l'impression que je renaissais dans la pierre. Je voyais en elle une réalisation de ce qui n'était que soupçonné auparavant, une représentation de l'individuation. Souvenir plus durable que l'airain, cette tour a exercé sur moi une action bienfaisante, comme une acceptation de ce que j'étais. J'ai construit la maison en partie séparée, obéissant aux seuls besoins concrets du moment. Les rapports intérieurs n'ont jamais fait l'objet de mes réflexions. On pourrait dire que j'ai construit la tour dans une sorte de rêve. Plus tard seulement, je vis ce qui était né, et la forme pleine de sens qui en était résultée, un symbole de totalité psychique. Elle s'était développée comme une graine ancienne qui avait germé. À Bollingen, dans ma tour, je me trouve dans l'être qui est le plus authentiquement moi-même, dans celui qui me correspond. Ici je suis, pour ainsi dire, le fils archivieux de la mère. C'est ainsi que parle la sagesse de l'alchimie, car le vieil homme, l'archivieux dont j'avais déjà fait l'expérience quand j'étais enfant, c'était la personnalité numéro 2 qui a toujours vécu et qui toujours vivra. Il est en dehors du temps, fils de l'inconscient maternel. Dans mes fantaisies, l'archivieux prenait la figure de Philémon, et à Bollingen, celui-ci était vivant. Et Jung continue, en décrivant sa vie à Bollingen, « Par moments, je suis comme répandu dans le paysage et dans les choses, et je vis moi-même dans chaque arbre, dans le clapotis des vagues, dans les nuages, dans les animaux qui vont et viennent, et dans les objets. » Il n'y a rien dans la tour qui ne soit devenu et n'ait grandi au cours des décennies et à quoi je ne me sois pas rattaché. Tout a son histoire qui est aussi mon histoire, et ici il y a place pour le domaine des arrière-plans situé hors de l'espace. J'ai renoncé à l'électricité et j'allume moi-même le foyer et le poêle. Le soir j'allume les vieilles lampes. Il n'y a pas non plus d'eau courante, il me faut aller à la pompe moi-même. Je casse le bois et fais la cuisine. Ces travaux simples rendent l'homme simple, et il est bien difficile d'être simple. À Bollingen, je suis plongé dans le silence, et l'on y vit en humble harmonie avec la nature. Des idées émergent qui remontent au fond des siècles et qui par conséquent anticipent un lointain avenir. Ici s'atténue le tourment de créer, ici création et jeu sont proches l'une de l'autre. En fait, dans le château, par le biais de la tour, le personnage important n'est plus le seigneur, c'est le veilleur. Tandis que les hommes et les femmes vaquent à leur plaisir quotidien, vont à la chasse, tissent leur toile ou écoutent les troubadours de passage, le veilleur, il est l'homme qui sait. Il appartient à la fois au jour et à la nuit, à l'hiver et à l'été. Il est ce regard attentif qui essaie de sentir le battement du cœur universel et qui tente d'accorder la pauvre histoire des hommes et leur désordre à la grande cohérence du monde. Et l'on comprend ainsi pourquoi la tour est devenue la demeure privilégiée des artistes et des philosophes. Pas seulement parce qu'elle est promesse de solitude créatrice, de paix, mais aussi parce que, vers la tour, semble converger une multitude de messages. L'homme de la tour est à mi-chemin entre le ciel et la terre. Il voit avec quelque distance les passions et les jeux des hommes. Il est aussi sans cesse confronté au bleu du ciel et au noir de la nuit. Et le vent, le soleil, la neige et la pluie lui parlent. Et c'est dans ce grand dialogue avec le tumulte des éléments que l'homme de la tour, à la ressemblance des mages archaïques, pénètre au cœur du mystère. Il n'est point assurément au pouvoir de tous de trouver ou de bâtir sa tour. La plupart d'entre nous ne peuvent habiter que des tours imaginaires où nous essayons de capter ces messages venus du ciel et de la terre. Jung nous parle de cet archivieux, de cette créature visionnaire que nous portons en nous, qui n'appartient pas au temps et qui est l'empreinte de l'inconscient maternel. Eh bien, cet archivieux, il est certes l'enfant de la tour, mais il peut être aussi l'enfant de la cave. Car entre ces deux demeures, c'est la même séparation d'avec le monde des apparences. C'est la même soif de solitude. C'est le même désir d'écouter dans le plus grand silence ces voix mystérieuses qui sont celles des étoiles, mais qui sont aussi celles des entrailles de la terre. Alors, que la cave soit le relais de la tour, c'est au fond les alchimistes qui nous le disent. Homme obscur, je veux dire homme condamné à l'obscurité, car bien souvent les diverses polices se plaisaient à contrarier leurs travaux. Ces alchimistes trouvaient refuge dans des lieux qui, comme les tours, étaient fortement appareillés de bonnes pierres, et sous les voûtes des grandes caves, comme on le voit dans les gravures de la Renaissance, ces alchimistes préparaient le grand œuvre. Ils s'adonnaient à la lecture des livres secrets. Alors, à une époque où les hommes sont devenus banalement familiers du ciel, en un temps où l'espace se trouve constamment habité par nos machines, c'est peut-être dans les caves que, comme les alchimistes de jadis, les hommes d'aujourd'hui peuvent retrouver l'antique passion qui donnait à la tour sa couleur mentale. Mais finalement, cave ou tour, qu'importe, ce qui compte, c'est que le veilleur, qui est au fond de chaque être, ce veilleur reste toujours éveillé.
C'était Les Châteaux et les Songes, une émission de Claude Métra. Collaboration artistique, Jeanne Montré.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 novembre 1971. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.